Bonjour à tous. En pleine journée utopiale bien chargée, et je suis extrêmement ému et ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Nombreux dans l'espace Chaillol, nombreux dans l'espace Hetzel, dans les expositions, bref, voilà. Merci beaucoup à vous d'être là. Alors un grand moment pour cet après-midi, évidemment, la rencontre avec notre invité d'honneur, avec Chris Foss. Chris Foss qui est ici d'abord en personne, et je le remercie de sa présence. C'est un grand événement pour le public français, à la fois dans le domaine de l'illustration, dans le domaine de l'art graphique, mais aussi, bien sûr, vous le savez, dans le domaine de la littérature, puisque je n'apprends à personne ici parmi vous que Chris a été l'un des plus grands illustrateurs, l'un des plus célèbres illustrateurs en France, pour les couvertures notamment de la collection J'ai lu, notamment à l'époque où Jacques Sadoul l'a dirigé. Et d'ailleurs, nous aurons tout à l'heure un hommage à Jacques Sadoul, dans lequel Chris Foss siégera et parlera aussi de ses souvenirs de Jacques. Donc c'est un grand événement. Il faut que vous sachiez que ce genre d'événement-là, cette présence de Chris Foss parmi nous à Nantes, aux Utopiales, c'est un événement qui se prépare. Il faut plusieurs mois, parfois plusieurs années, pour que le destin permette aux choses de se concrétiser. Alors l'année dernière, Chris, tu nous avais fait l'amitié de venir. C'était pour le Dune, Jodorowsky Dune, le documentaire de Frank Pavitch, qui avait été projeté ici à Nantes et qui avait justement obtenu beaucoup de d'écoute du public, beaucoup de réussite. Et donc Chris était là. Alors cette année, nous avons concrétisé, grâce à Gilles Francescano, ici présent et qui est le responsable de nos expositions, et grâce à toute l'équipe de la Cité des Congrès, de l'Organisation des Utopiales, cette magnifique exposition qui est l'une des plus grandes expositions que nous avons jamais reçues ici à Nantes. Vous avez combien de peintures de Chris a-t-on dans l'exposition ?
Je pense qu'on ne doit pas être loin d'une soixantaine de tableaux. Là.
Soixantaine de tableaux, donc c'est quand même extrêmement important, extrêmement massif. Et puis surtout, nous avons Chris ici présent. Il est là, il fait des dédicaces et... Il travaille, il échange avec vous déjà depuis le début de ce festival. Alors évidemment, pour moi, la tentation était grande, évidemment, de vous remontrer sur écran géant des tas d'images et des tas d'œuvres de Chris. Mais j'ai voulu que cette rencontre, paradoxalement à Chaillol, soit aussi une rencontre avec l'homme. Pas simplement l'artiste, mais l'homme derrière l'artiste et son vécu aussi, sa vie. Parce que souvent... On connaît les artistes, on croit comprendre les raisons de leur travail, mais on n'a pas souvent l'occasion de les rencontrer et de parler avec eux des fondements de leur œuvre. Alors Chris Foss, cher Chris, on va le faire en français, et puis si à un moment donné, trop compliqué, on passera à l'anglais, ils ont la traduction. Première question que je voudrais te poser, c'est, on va venir aux origines, à l'enfance, quand tu étais enfant. Est-ce que tu savais déjà, petit garçon, que l'expression qui allait être la tienne, l'expression de ton rapport au monde, à la réalité, à tout ce qui t'entourait, est-ce que cette expression qui allait devenir la peinture, est-ce que tu en avais déjà conscience ? Est-ce que tu dessinais déjà tout petit ? Et quelles étaient tes sources d'inspiration enfant, la plus jeune, la tendre enfance ?
Je suis devenu un petit peu de Guernsey et Jersey. Et c'est une certaine maison en Jersey qui était le bâtiment de ma famille il y a 200 années. Et derrière ce petit bâtiment-là, le grand bâtiment-là, on a un petit bureau. Et je me souviens bien, bien, bien. Et je crois que j'ai eu 3 ans. Et mon oncle, il m'a aidé à faire les dessins. Et j'ai fait les dessins sur la locomotive vapeur. Et vous pouvez, et les dessins, ils ont servi. Et j'étais étonné, j'ai 3 ans, mais vous pouvez regarder la silhouette de la locomotive et vous pouvez savoir la classe de locomotive, le type de la locomotive. Et je crois, j'ai commencé à dessiner juste automatiquement. C'est juste un truc pour moi, c'est une méthode d'expression, si tu veux. Voilà.
Donc un premier dessin, c'était une locomotive à 3 ans. Locomotive vapeur, et avec, tu dis déjà, tu dis le sens du détail, le sens, voilà, de la mécanique.
Oui, c'est ça, oui.
Est-ce qu'il y avait un attrait pour l'objet technique lui-même? Pourquoi la locomotive? Est-ce que c'était la machine déjà qui...
Je crois peut-être c'est un certain... Je suis très influencé par le goût de mon père. Mon père, il était très fou pour les locomotives à vapeur, les chemins de fer. Et on a eu l'habitude, si on doit faire les courses, mon père, il dépose ma mère pour faire les courses, ma pauvre mère. Et c'est elle qui fait les courses toute seule. Et nous sommes amenés par mon père de venir à une gare pour voir les locomotives, les trucs comme ça. Et ça, c'est, il a donné une immense impression, ce truc-là. Les grosses machines avec le vapeur, le prix, les trucs comme ça, le sens, les trucs comme ça. Et je crois, bien sûr, on n'a pas analysé depuis cette époque-là, ce truc-là, mais je crois que c'était une immense influence. Même aussi, nous avons répété en Guernsey et Jersey, et c'était beaucoup d'années avant, c'est juste après la Deuxième Guerre, et tout est on n'a rien qui marche bien. Et si on prend un bateau, c'est un ancien bateau, c'est un bateau vapeur, si vous voulez. Et nous sommes fascinés. Vous pouvez rester presque sur le toit de le bateau et vous pouvez regarder tout l'intérieur avec les gens qui mettent le charbon dans le coudre, dans la machine. Et vous pouvez regarder toutes les machines qui marchent comme ça. Et je crois que ça, c'était une grande influence aussi. Voilà.
Donc la vapeur aussi a joué un rôle très important, la locomotive à vapeur, le bateau à vapeur, on est presque dans Jules Verne. Alors la question que j'ai envie de poser à Christ, enfant, donc après 3 ans, peut-être un peu plus tard, est-ce que la science-fiction, est-ce que la lecture peut-être de romans de science-fiction, alors pas forcément Jules Verne, mais est-ce que ça a une influence sur ton travail ou ton imaginaire ou pas du tout? Est-ce que la science-fiction a joué un rôle dans le développement, la formalisation de ton expression artistique?
Tout à l'heure, j'ai parlé avec les journalistes, donc je peux toucher les éléments que vous avez discutés. Et tu vois, on a beaucoup de souvenirs grâce à vous, et merci pour l'invitation, parce que grâce à vous, je suis obligé de penser sur mon influence. Une immense influence. Quand j'étais jeune, nous n'avons que la poste, la radio. Ça n'existe pas, télévision. Télévision, bien sûr, ça existe, mais pas dans notre région. Et sur la poste, je me souviens maintenant, et c'était une très importante chose, c'est une émission de la BBC, on s'appelle Jet Morgan. Voyage de l'espace. Et nous sommes toujours préparés pour ça. Ma mère, elle fait un feu et nous sommes installés et on est très pris. Tu vois, c'est juste une poste simple, mais on est pris par on a du tonnerre, on a les sons et il commence avec Jet Morgan, voyage de l'espace, da 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 da. Et voilà, quand vous avez 14 ans ou 5 ans, on est oh, comme ça. Bien sûr, les enfants maintenant, j'ai regardé les enfants à la même âge, ils regardent la télé, c'est la même chose. Ils ont les yeux comme un missile. Ils sont complètement pris par l'écran. Voilà. On n'a rien qui se passe depuis cette instance que la mission. Et je crois que c'était une immense influence. Et plus tard, on a sur la télé quelques émissions et qui sont terribles, terrifiants, si tu veux. On a quelques émissions, j'oublie le nom, c'est, par exemple, c'est une histoire qui revient. Chaque fois que tu vois une truc dessus Londres, vous pouvez toucher quelque chose. Et ils sont en train de faire un nouveau chemin de fer dessus Londres. Ils ont touché les anciens trucs. On a le diable, on a les trucs comme ça. J'oublie le nom, c'est quelque chose in the pit. Et on était terrifiés. On était obligés d'avoir la lumière allumée toute la nuit. Voilà.
Tellement la peur.
Voilà. Voilà.
Donc la grande influence de la radio aussi, toujours dans l'objet technique finalement, puisque cette radio est aussi un objet technique profondément présent. Donc il y a quand même cette influence effectivement de l'imaginaire, de l'espace, ce qui nous amène évidemment à cette œuvre centrée sur les machines, l'espace, la démesure. Qui est tout à fait caractéristique dans ton travail. Alors on avance encore un petit peu dans le temps. Les premières fascinations pour l'objet technique, pour la locomotive, pour les machines à vapeur, avec la radio, le contact avec l'imaginaire. À partir de quand tes dessins, tes œuvres commencent à être connus, commencent à être vendus? Par exemple, quelles ont été les circonstances dans lesquelles tu as vendu ton premier tableau, la première œuvre?
Oui, c'était un petit peu marrant. Des fois, je dis, toute ma vie, c'est prévu. Par exemple, merci pour l'invitation ici, cette année. Mais pourquoi je suis ici cette année? L'année dernière, ils ont l'ouvrage de le film de Jodorowsky. Et j'étais invité à Londres. Oui. Je dois être là avec Jodorowsky, avec le metteur en scène, avec tout le truc comme ça. C'est une grande affaire. C'est le plus grand cinéma de Londres, tout le truc comme ça. Mais méchant Christopher, je suis bien installé chez moi, dans le bar, on a du soleil, on a tous les trucs comme ça, j'en ai marre avec Londres. C'est pas la peine de venir à Londres si vous êtes bien installé dans le midi. Et quelqu'un, vous savez bien, quelqu'un a galé parce que je suis pas là. Donc, j'ai revenu chez moi en Guernsey et je suis comme un cirque. À la fin de l'année, je suis en pause, on reste. C'est fini, c'est hiver, voilà. Et ma fille, qui conduisait le business maintenant, elle m'appelle et dit, c'est où, Nantes? Nantes? Oui, c'est où? Ah, Nantes? Oui. Vous êtes invité chez un festival là-bas. Ah bon? Oui, parce qu'ils ont le tournage de Jodorowsky et il est là aussi. Ah bon? Vous devez venir. Oh, j'ai pas envie. Ça. Alors, papa, tu dois venir. Ok, je vais là-bas. Et voilà, l'année dernière, j'ai venu ici. Merci beaucoup. Vous avez me reçu très bien, très gentiment. Et voilà. Et maintenant, je suis ici pour la deuxième fois. Et alors, ça, c'est le régime de ma vie. Je suis comme un chemin de fer. On a toujours les rails. On a toujours les rails parce que je suis très, what you say, lazy. Lazy. Je suis très feignant. J'ai beaucoup d'envie de rester juste comme ça. J'ai beaucoup d'envie de dire, ah, demain, demain. Et c'est toujours une voix qui dit, viens, viens. Alors, et ça, c'est la même histoire avec la science fiction. Parce que, complètement par accident, j'ai venu à l'université de Cambridge. Parce que j'étais installé dans une très bonne école. C'est qu'une école pour les riches. Mais j'ai gagné un prix, et donc je suis installé là-bas parce que ils ont me donné la moitié de l'argent. Et mes parents, ils sont très fiers pour mon progrès et l'alcool aussi, et ils ont dit, Chris, vous devez venir à Cambridge. Mais moi, j'ai une belle série, parce que les grandes écoles comme ça, ils sont comme les prisons. Je peux survivre dans une prison, c'est pas la peine de battre le mur comme ça. Vous dites, ah oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Et après, vous trouvez le chemin. Et moi, je dis, OK, OK, je vais à Cambridge, parce que c'est difficile de venir là-bas. Et moi, je dis, OK. Et bien sûr, je perds l'examen, ça c'est sûr. Et après, je peux venir dans une école de l'art. Et je suis très à l'aise. La vache, j'ai passé l'examen. J'ai aucun idée qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai passé l'examen. J'étais installé à Cambridge pour faire les études sur l'architecture. Mais je suis toujours obsédé de faire les dessins. J'ai voulu de faire les bandes dessinées. Et j'ai envoyé les exemplaires partout. Et c'est M. Guccione, qui est le chef de Penthouse. Il a juste établi. Et voilà, il a beaucoup changé le temps. Vous avez tout le monde ici, ils ont l'habitude pour les ordinateurs, tous les trucs, les voitures efficaces, les trucs comme ça. Mais depuis cette époque-là, Londres est moche. On n'a que les petites voitures. Et soudain, on a un immense Américain, un monsieur de la mafia, qui comme avec une parachute qui est venu à Londres. Et j'ai 17 ans, j'ai les yeux ronds. C'est un immense monsieur, très gentil, avec une Cadillac. On a parlé Cadillac à Londres. Mais dans mon souvenir, le Cadillac, c'est assez long que le stage ici. Toutes les Anglais, ils ont les petites voitures. Et le plus intéressant pour moi, il habite avec une stripper, la stripper la plus connue de Londres. Et chaque semaine, je suis obligé de venir chez lui. Et j'ai commencé la bande dessinée pour Penthouse. Et j'ai 17 ans. Et alors, à Cambridge, j'ai vu beaucoup de conneries. Toujours, j'aime beaucoup les boissons, les trucs comme ça. Presque deux fois par semaine, c'est les flics qui me ramènent à la porte de l'université, c'est toujours un gros monsieur comme ça, un agent, Monsieur Force, pas encore. Et il fait ça dans un bouquin. Et alors, un jour, c'est les flics qui me ramènent là-bas et il a penthouse. Et j'ai dit, ah, penthouse, Monsieur Force. Ça, c'est pour les hommes. C'est pas pour les petits monsieur. Non, mais laissez-moi regarder. Et voilà, c'est moi, mon visage, mon dessin. Et le monsieur, il a 2 mètres, il est... C'est vous? Oui? Et toujours après ça, je peux revenir, bourré, et toujours, Monsieur Force, dépêchez-vous. Et voilà. Alors, j'ai travaillé beaucoup pour Penthouse, mais Guccione, il m'a dit, c'est un nouveau tonnage. Tu dois avoir ce tonnage-là. C'est très intéressant. Ah bon, c'est quoi? Ah, c'est 2001. C'est une histoire de l'espace. OK. J'ai venu. Et j'ai les yeux ronds. J'ai jamais vu. Parce que c'est la première grande tonnage fait sur la science fiction. Voilà.
Alors, on va parler maintenant, oui, justement, du cinéma. Oui. Avec le rapport avec le cinéma de science-fiction, alors notamment 2001, l'Odyssée de l'espace, tu avais parlé de Kubrick à Londres, j'étais à la Worldcon, on avait parlé de ton rapport avec Kubrick, et puis de ton rapport avec Jodorowsky. Alors là, ici, on a une illustration, un des travaux que tu avais fait pour le Dune de Jodorowsky. Ce souvenir du projet de Jodorowsky, où tu étais aux côtés de beaucoup d'autres artistes, ça reste un souvenir un petit peu triste, parce que le projet n'a pas abouti. Ou au contraire, ça reste un souvenir extrêmement beau, extrêmement positif? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a finalement galvanisé dans la suite de ton travail? Est-ce que ça a vraiment été un bon souvenir?
Voilà. J'ai jamais travaillé sur un tournage avant Dune.
D'accord.
J'ai jamais venu à Paris avant Dune. Et depuis cette époque-là, j'ai parlé que 6 mots de français. Donc, c'était immense expérience. Pour la première fois dans ma vie, j'étais installé à Paris avec un monsieur très bizarre, Jodorowsky, avec une petite équipe, Dune, et il va commencer ce tournage-là. Et malheureusement, j'ai jamais travaillé sur un tournage avant ça, donc j'ai pas réalisé l'unique élément de Dune. Et bien sûr, maintenant, après plusieurs tournages, je peux savoir que c'était un petit moment tellement unique. Et j'ai un très, très, très bon souvenir de Dune. Je veux dire tout de suite, c'est triste qu'il n'était pas ici, parce que l'année dernière, j'étais très fier de rencontrer Alejandro. Mais je peux dire à tout le monde, merci beaucoup Alejandro, parce qu'il a changé ma vie. Il était une influence incroyable. Je peux faire la comparaison avec Kubrick. Kubrick, il veut détruire tout autour de lui. Il est comme une bombe atomique. Et Alejandro, il était le contraire. Et malheureusement, je n'ai pas saisi l'unique influence de Jodorowsky, mais en même temps, je peux dire merci Dieu, parce que Alejandro, il a les idées pas pratiques. Tu vois, la raison que le premier Dune, tout le monde sait bien pourquoi il est tombé en panne, c'est parce que c'était pas pratique. Les Américains, ils ont aucune idée. C'est comme une martien qui est venu chez eux. Mais en même temps, je peux dire merci, parce que l'enfant de Dune, c'est Elia. Si O'Bannon n'a pas venu à Paris, c'est sûr que je n'ai pas travaillé sur Dune. Donc, je suis philosophe. Tu vois, on a les règles dans la vie. Et comme je dis, c'est le chemin de fer. Je suis toujours sur les rails, mais on a les règles. Soit ça se passe comme ça, ou soit ça se passe comme ça. Et regardez, presque 40 ans, après le travail, je suis encore ici, bien invité, je ne suis pas caché, je ne suis pas dans la rue, j'ai une bonne vie avec les gens très gentils, grâce à les gens comme ça.
Merci beaucoup. Loin d'être caché, tu es au centre de notre festival. Voilà. Alors, je vais peut-être un peu passer la parole à Gilles, et puis on passera la parole à la salle, parce que je suis sûr que vous avez des questions. Alors Gilles, évidemment, toi tu vas peut-être plutôt parler des techniques ou des voilà.
Alors peut-être, mais pour enfin c'est juste pour continuer ton chemin de fer justement. Donc tu disons tu rebondis, hein, passe-moi l'expression, de film en film au gré des rencontres. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu peux nous parler de projets, par exemple, ou est-ce que il y a des choses à venir qu'on doit attendre, je dirais, de ton travail? Est-ce que tout ça te motive? Est-ce que tu as envie de présenter quelque chose de nouveau un petit peu? Le nouveau FOSS, par exemple, à partir d'aujourd'hui, ça va être quoi?
Sans blague, grâce à vous ici, je suis bien chargé maintenant. Par exemple, très gentiment, vous avez montré mes meilleurs tournages, les tournages qui sont les plus importants pour moi. Donc, j'ai vu Dark Star. Après, la suite, tout de suite, j'ai vu Alien.
Voilà, c'est la carte blanche que tu as choisie pour la programmation cinéma.
Voilà. Et c'est très intéressant de voir un tournage tout de suite après l'autre. Et après, c'est Mad Max. Et je peux voir maintenant quelques éléments qui existent dans tous les films. Et je suis en train d'essayer de sortir mon premier film. Vous avez le crabe là, ça, il est le centre de cette histoire. Et après ce festival ici, je suis bien chargé. Je suis plein avec des idées. Je suis très content de rester ici, mais en même temps, je suis fier de revenir chez moi parce que j'ai une planning incroyable. Voilà.
Tu nous annonces un premier film là?
Oui, c'est très dommage. Depuis le temps parce que j'ai vécu à Paris. Et depuis cette époque-là, je suis le meilleur ami de le premier associé d'Alejandro. Et nous avons établi une petite société, on s'appelle Dune. Et nous avons fait le planning pour cet tournage-là, on s'appelle le White Ship. Et on a beaucoup d'intérêt, mais malheureusement, maintenant, parce que ça passe la vie, mon associé, il est mort. Le producteur, il est mort. Et voilà. Mais peut-être, après un festival comme ça, avec l'intérêt qui revient, peut-être on peut recommencer avec ce projet-là.
C'est bien si les Utopiales servent à relancer des projets que
beaucoup. Je veux dire
un
grand merci à votre équipe qui sont tellement gentils. Je suis très à l'aise ici. J'ai vachement l'impression d'être chez moi. Et par exemple, j'ai fait une blague avec votre associé. J'ai dit, est-ce que je peux rester après le festival? Est-ce que je peux garder les tables? Et il m'a dit, avec aucun sourire, je jette jamais les gens qui sont invités dans la rue. Voilà.
Ah, bon, d'accord. On réglera ça en interne après. Alors, on est au milieu de la rencontre, mais je veux laisser aussi à l'occasion au public de poser un maximum de questions. Donc avant de repartir sur d'autres éléments, sur d'autres projets, sur le rapport notamment avec les couvertures des livres en France, est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Monsieur Chris Foss? Voilà, alors une première question au premier rang. Pour une rencontre, le plus important, c'est vraiment l'échange avec le public. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Gilles et moi, nous sommes là pour pallier simplement l'absence de questions éventuelles, ce que j'ai du mal à croire quand même. Alors allez-y, monsieur.
Enfant, vous m'avez émerveillé. Donc j'ai encore de nombreux ouvrages à la maison avec vos couvertures qui faisaient rêver un enfant qui n'avait pas Internet et qui n'avait pas la télévision à la maison. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir donné ce rêve de science-fiction. Alors j'ai remarqué, dans certaines de vos œuvres, il y a des bunkers, des blocos du mur de l'Atlantique, genre à Guernesey. Est-ce que vous aimez les bunkers, cette architecture de guerre qu'on retrouve d'ailleurs ici, en Loire-Atlantique? Est-ce que vous aimez là, cette architecture qui est futuriste, puisque les architectes allemands de l'organisation Todd qui ont fait ce mur de l'Atlantique, Atlantic Wall, étaient des architectes qui, certains, participaient au mouvement du Bauhaus allemand. Donc, est-ce que, j'ai vu que dans vos œuvres, il y a beaucoup de bunkers. Est-ce que vous êtes aussi, comme moi et comme beaucoup de personnes, émerveillé par cette architecture guerrière qu'on retrouve sur le mur de l'Atlantique?
Alors, oui, c'est une question très intéressante. Je crois que j'ai bien compris. C'est vrai, parce que j'étais né en Guernsey et les blockhaus, ils sont construits entre 1940. Tu vois, ils sont peut-être 6 ans âgés depuis le temps que je commence à faire la petite exploration là-bas. Et alors, ils ont presque neuf. Et j'étais fasciné par le design. Bien sûr, depuis la jeunesse, on n'a aucun souci sur l'histoire. C'est vrai, vous avez les esclaves. C'est les esclaves qui ont fait ça. Et c'est un petit peu marrant parce que depuis 10 ans, chez les gens qui louent les chambres dans ma maison, ils sont devenus de Latvie, les pays comme ça. C'est sûr, ils ont peut-être the grandchildren of the people who built those buildings. Mais vous pouvez faire la recherche sur les photos et les gens qui ont travaillé sur les bâtiments en Guernsey, they had a good life par comparaison avec le continent, tu vois. Parce qu'en Guernsey, les Allemands, ils sont très gentils avec tout le monde. Et j'ai 2 maisons en Guernsey et les Allemands, ils ont habité dans les maisons-là. Bien sûr, maintenant, parce qu'à cause de le changement de goût de tout le monde, et peut-être moi aussi, on commence à penser sur les gens qui ont construit ce bâtiment-là. Mais le problème pour tout le monde, il fait le jugement sur une vie de maintenant. Vous vivez bien, vous mangez tous les jours, vous réveillez le matin, vous n'avez aucun problème. C'est personne qui veut essayer de vous tuer avec un fusil. Vous pouvez balader dans la rue comme ça, tu vois. Et le problème, on a trop de monde qui commence à faire un jugement sur cette vie-là. Mais tu dois, parce que, par exemple, ma mère, elle a acheté trois tableaux de Picasso quand j'ai 6 ans sur une vente en chair. Elle a payé 10 euros. Mais avec le profit, nous avons traversé tout le continent 6 ans après la guerre. Et moi et mon frère, nous avons les... Vous pouvez pas imaginer. Même Nantes, peut-être c'était une ruine depuis cette époque-là. Vous pouvez pas imaginer le tas de le continent. Nous avons fait un camping dans le stade de Nuremberg. Et mon frère et moi, nous sommes sur le stand de Hitler, juste comme ça. On a fait... Vous avez tué combien d'Allemands? Oh, une vingtaine. Au moins que... Tu vois? Mais c'est vrai, je suis très, très pris par la construction de ce bâtiment-là. Et pour moi, c'est facile d'isoler le design. Par exemple, vous avez vu les tours, Fort Saumarez, c'était un profil fascinant. C'est pas perpendiculaire, c'est juste un certain truc comme ça. Et j'ai cherché plusieurs des fois pour les anciens plans, parce que les Allemands, ils sont très, très, très bureaucratiques. C'est sûr que ça existe, les plans. Mais un truc très intéressant, mon oncle Gonzé, mon grand-oncle, il était un soldat dans la Première Guerre. Et après la Première Guerre, il était un collectionneur de beaucoup de magazines qui sort chaque semaine sur l'histoire de la Première Guerre. Et vous pouvez voir que des Anglais, des Français, excusez-moi les Français, ils ont les fortifications qui sont fous, hein. C'est qu'avec du sable et tout comme ça. Mais les Allemands, ils ont déjà commencé à faire des bunkers depuis la Première Guerre. Et c'est sûr, parce que Hitler, il était un soldat dans la Première Guerre. C'est très intéressant. Il est dans un petit régiment. Vous pouvez penser qu'il peut se passer, qu'il était mort. Mais il a apporté tout son goût, toutes ses expériences de la Première Guerre. Il a mis ce truc-là dans la Deuxième Guerre. Mais un truc très intéressant, parce que vous savez vous que je fais beaucoup de dessins sur les bâtiments, les trucs comme ça, mais mon début de illustrateur, j'ai fait beaucoup d'illustrations sur lesquelles les bombers, les avions, les trucs comme ça. Et vous avez un grand truc là de Len Dayton. C'était un écrivain très connu en Angleterre. C'est une histoire de guerre. Vous avez les bombers anglais, les trucs comme ça. Et j'ai connu très bien une monsieur Douglas Bader. Douglas Bader, c'était une pilote les avions de chasse. Et nous avons parlé beaucoup sur les fortifications allemandes. Et il m'a dit, après la Deuxième Guerre, tout de suite après la Deuxième Guerre, si nous avons attaqué les Russes, on peut avoir tout le pays d'Europe à nous. Et il m'a dit, même depuis la guerre, c'était facile d'attaquer les bâtiments comme ça.
Ok, merci. La réponse.
Mais c'est une question très intéressante. Merci beaucoup.
Merci, merci monsieur. D'autres questions pour Chris Foss sur son parcours ou voilà, ils sont intimidés maintenant.
Les réponses une question à gauche. Sont trop
longues. Tu peux te demander n'importe quoi.
Où est-ce qu'il y a... voilà. Ah voilà, monsieur, pardon, je vous avais pas vu. Allez-y, allez-y.
Non, j'ai une question et à la fois un constat. Moi, j'ai eu la chance de vous découvrir l'année dernière avec le documentaire sur le projet Dune de Jodorowsky. Et donc, du coup, là, je suis très heureux de voir les dessins à l'exposition. Et je suis aussi heureux de découvrir d'autres artistes qui sont surnommés les enfants vos enfants spirituels. Et justement, j'aurais aimé avoir votre regard sur vos enfants et peut-être qui sont là, mais qui sont aussi peut-être pas là.
Alors, si je peux me permettre, oui. Si je peux me permettre une petite réponse, en fait, il y aura demain une table ronde consacrée aux enfants de Foss. Dans le programme, Chris Foss n'est pas convié sur la table ronde, mais nous, on a fait une pétition pour que les enfants invitent leur papa sur la table ronde, donc j'espère qu'il sera d'accord.
Non, mais on peut quand même... Enfin, c'est vrai que demain, il y aura une table ronde, mais c'est vrai que moi, c'est la question que j'avais prévu de poser après, donc pour y être très bon modérateur ici. Donc effectivement, le regard que tu portes sur tes enfants en France... Et qui sont là-bas.
Par exemple, Mouchou et le monsieur là.
Il y en a quelques-uns dans
voilà,
la salle.
Le monsieur là, voilà. Ils ont gentiment montré les tableaux l'autre soir. Oh la vache, je suis très, très jalouse. Ils sont beaucoup mieux que moi. C'est beaucoup mieux. Voilà, voilà. Et la technique, j'ai rigolé. On a un grand tableau de Mouchou là-bas. Tu vois?
Oui,
parce
Mouchou.
Que je suis très, très, what you say, lazy? Lazy. Je suis très feignant maintenant et j'ai regardé le grand tableau de mon chou et j'ai les yeux rondes. J'ai pensé, ha, 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 tu fais un boulot comme ça maintenant, hein? Si je suis chez moi avec ce tableau dans la pièce, c'est sûr que chaque matin quand je travaille, oh, c'est pas vrai, je dois travailler encore. Ah, oh. Et le monsieur
oui,
là,
mon
il fait les oui, belles mon choses, mon je suis très jalouse. Et alors, c'est vachement un problème. Par exemple, le dernier tournage que j'ai travaillé sur, c'est un tournage de Marvel Comics, tu vois. Et j'ai fait une grande bêtise parce que ma fille, elle m'appelle, elle dit, écoute, Chris, papa, Marvel Comics, ils ont besoin de vous pour le prochain tournage. Ah bon? Et j'ai pensé, c'est Los Angeles. Je suis très content. On a dragué un petit peu. On a fait la côte. Oh la vache. On est installé à Londres. Le plus moche studio, hein, Shepperton. Ha, c'est comme une usine là-bas, tu vois. C'est comme une station de gaz. Alors, mais là, j'ai arrivé avec une feuille de papier, avec les stylos, et soudain, on a un montant fou de jeunes messieurs qui sont venus, qui sont les vedettes de les ordinateurs, tu vois. Ils peuvent construire n'importe quoi. Et ils ont dit, oh, pour nous, vous êtes une maître, vous avez... Et moi, je dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant, tu vois? Et ça, c'est le problème. Les enfants, ils ont dépassé le père beaucoup plus. Voilà, pauvre Christopher. Hein? Et des fois, on a quelqu'un qui vient chez moi pour avoir un bouquin signé et dit, regardez mon gosse, il est un très bon peintre. Et je dis, excusez-moi, laisse tomber le boulot pour encore 10 ans parce que j'ai besoin de les sous. Voilà.
Bah, il n'y aurait pas les enfants de Foss sans le papa. Donc, il faut bien aussi, voilà, on est vraiment dans la continuité. Mais très bonne question en tout cas. Et oui, les enfants de Foss, d'ailleurs, hein, Gilles, ça me permet aussi de te remercier. Parce que c'est Gilles Francescano qui a eu cette idée hein, extrêmement brillante d'associer l'exposition Foss avec les enfants de Foss, c'est-à-dire de montrer la continuité. Hier, on parlait des enfants de Nemo. Est-ce que tu peux d'ailleurs, Gilles, en deux mots rapidement, nous dire comment est-ce que ça s'est construit facilement, cette idée des enfants de Foss et les deux expositions couplées?
Disons, là, je vais être obligé de parler un petit peu de mon parcours, mais en fait, étant illustrateur depuis presque 30 ans aujourd'hui, je connais beaucoup d'illustrateurs en France et au gré de nos discussions, de nos goûts échangés, de nos admirations et de nos verres à boire, Chris Foss est quelqu'un de perpétuellement présent en fait dans nos cursus. Ce qui fait que lorsque je l'ai rencontré en chair et en bière l'année passée, j'ai immédiatement effectivement songé à cette exposition Les Enfants de Fosse, parce que pour moi ça coulait de source de lui montrer lorsqu'il travaille d'une manière solitaire dans son atelier, en fait, chaque image diffusée avait eu un impact immense. Et on est tous venus, et oui. C'est assez, disons, touchant, parce que lorsque j'ai demandé les images aux illustrateurs en question, je leur ai aussi demandé un petit texte, quelques lignes. Oui. Quelques-uns se sont prêtés au jeu, d'autres plus ou moins facilement, mais tous ont voulu communiquer leur amour de Chris Fosse au travers de, comme disait le monsieur, des images qu'il nous avait fait découvrir dans notre enfance. Il y a des textes, je vous invite à lire les textes, parce qu'une exposition, ce n'est pas uniquement des images. A fortiori, aujourd'hui, quand on parle d'art contemporain, par exemple, il vaut mieux lire les textes que regarder les images. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez faire les deux. Et lorsque vous vous intéressez au texte, je vous invite à lire, par exemple, celui de Denis Bajram. Denis Bajram, j'ai reçu son texte, il était 23h. Je lui ai répondu, il m'explique qu'il a beaucoup hésité à me l'envoyer parce qu'il pensait que c'était un peu trop pathos, un petit peu trop chargé d'émotions. Et je n'ai pu faire que le remercier pour ce texte. Parce qu'il nous renvoyait à tous, il nous renvoyait à l'émotion de l'enfance quand on ouvrait les ouvrages et puis on lit le texte, on referme le livre et on se dit « Waouh, mais l'illustrateur, il est encore plus barré que l'auteur. » Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quel est le rapport entre la couverture et le texte? Et moi, je crois que c'est cette différence entre la couverture et le texte qui fait rêver le lecteur, en fait. Et je voulais montrer ça dans cette exposition. Ils sont 12, ils auraient pu être 20, ils auraient pu être 30, et ça aurait été la même intensité.
12, comme les apôtres. 12 enfants. Alors, non, c'est un private joke. Alors, d'autres questions pour Chris Fosse, qui a des questions sur son parcours.
Je ne veux pas aucune question de quelqu'un qui dit qu'ils ont une vraie enfant de moi. Voilà, merci.
D'accord, donc pas de questions sur éventuelle filiation biologique.
Il y en a peut-être plus que 12.
Oui, il y a quelqu'un là-bas, je vois la main, mais voilà, il est là, le monsieur. Levez-vous, comme ça on vous verra mieux. Merci. Allez-y.
Bonjour. Je voudrais savoir, en fait, comme vous venez de Jersey, quelle était l'influence, en fait, qu'a eu cette île sur votre travail, sur la lumière de vos œuvres?
Oui, oui. C'est encore une très bonne question. Merci beaucoup. Parce que, vous savez, de venir ici, d'avoir les questions de les gens, et je suis obligé de réfléchir sur les trucs que normalement on n'a pas l'habitude de penser. Ça. Mais je crois la raison, j'ai eu une très bonne. J'étais très inspiré par 2001 parce qu'ils suivent la lumière de Guernsey. C'était une lumière très costaud, par exemple, dans ma studio. Des fois, j'ai mis les tableaux contre le mur, comme ça. Et peut-être même après 2 mois, si vous enlevez le tableau, vous avez la silhouette de le prochain. C'est une lumière très, très costaud. Donc, tout est très clair. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai beaucoup, beaucoup de lumière. Et donc, quand j'ai vu les tournages l'autre soir, c'est toujours trop foncé. On manque la lumière. Mais c'est vrai, la lumière de Guernsey, c'est une immense influence. Oui, je suis sûr. Oui.
Juste un petit commentaire en attendant la prochaine question. Par rapport à l'image que Hugo vient de choisir, quand je vois la couverture là, de Ian Gillan Band, c'est une couverture qui doit dater des années 74, pardon, oui, je pense, oui, quelque chose comme ça.
Yes.
Et en même temps, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parlait hier de la table ronde sur les machines, par exemple, avec la disparition de la technologie apparente, hein, de toute cette introduction de la technologie, disons, under the skin, quoi. J'ai l'impression qu'il y a aussi une nostalgie liée aux images de Fosse, parce qu'il y a une présence de la machine. Bon, là, en l'occurrence, moi, quand je vois cette couverture, ça me renvoie effectivement à toute l'histoire du rock en Angleterre. Chris Fosse est intimement lié aux publications de Paper Tiger, par exemple, avec des gars immenses comme Jim Burns, comme Patrick Woodroffe, malheureusement décédé cette année, dont on a parlé hier. Et c'est des gens qui ont véhiculé une image et qui ont formé, en fait, la culture actuelle, et on en est tous empreints jusqu'au dernier atome, et j'espère qu'il en est conscient.
Alors, conscient de cet héritage incontournable que tu représentes sur les. You are the main point of convergence for everyone. Tous les artistes sont autour de toi sur le point central que tu représentes en fait, par rapport à l'usage de la lumière et notamment à cette idée de la technologie apparente.
C'est très très gentil. Tu vois, j'ai seulement commencé comme illustrateur. Je dois vivre, je dois gagner les sous. J'ai fait aucun plan. Et je veux dire un grand merci parce que je dois réfléchir maintenant. Mais le grand problème, j'ai un risque d'avoir une tête trop agrandie. Parce que pour moi, je suis comme un plombier. C'est du boulot. Un plombier, il va venir pour changer les tuyaux, les trucs comme ça. Et moi, je dois travailler la même. Je dois faire une ciel. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Et j'ai jamais pensé que c'était une influence sur les autres gens. Je suis un petit chemin. Heureusement ou malheureusement, je suis assez vieux maintenant. Donc, c'est pas la peine d'avoir une grande plan. Je peux faire les trucs que je veux faire. Et alors, qu'est-ce que je peux dire? J'ai jamais pensé que je suis une influence sur n'importe qui, tu vois. Parce que depuis les années, les meilleures années, les années que j'ai sauté beaucoup de designs comme ça, c'est que du boulot.
Au point par point, effectivement, oui. C'est vrai qu'on ne se pose pas cette question-là quand on est en train de s'installer, de créer une carrière d'artiste, effectivement.
Peut-être la seule mauvaise pensée, si tu veux, c'était une tableau que vous avez montré tout à l'heure. C'était quelqu'un qui a fait le poste d'un jeune étudiant. C'est un monsieur qui est connu, qui fait des copies de les trucs. C'est monsieur Glenn Brown. Et il a fait une copie d'un tableau de moi. Il a fait une vraie copie. Et depuis cette époque-là, j'ai pensé par les gros. Voilà, c'est ce truc-là. Et cette copie-là était vendue à New York.
Là, c'est l'original.
Voilà.
Celui-là, c'est
l'original. Non, la copie de Glenn Brown, c'était vendue à New York pour 5,5 millions de dollars. Vous pouvez construire tout ce bâtiment-là, toute la cité, pour le même montant. Et ça, c'est la seule chose qui peut-être ne me plaît pas. Voilà, ça, c'est le seul mauvais truc. Parce que, bien sûr, c'est un monde c'est les gens qui vendent les voitures, tu vois. C'est un monde commercial, tu vois. Et ça, c'est la seule mauvaise chose.
Une grosse déception.
Mais si on a les gens, comme les gens qui disent, ils sont les enfants de moi, ils donnent que les compliments. Et ça, c'est très gentil. Très gentil. Et voilà.
Ok, merci Chris. Il nous reste encore du temps, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur son parcours? Oui. Alors.
Une question de l'artiste enfant, un des enfants, un de tes rejetons, donc Hubert de Lartigue.
Hubert de Lartigue, au premier rang. Merci.
Hubert, merci pour les bouquins. Il a donné un montant fou des bouquins qui sont super. Père, je suis jalouse. Il fait les belles nanas. Tu vois,
c'est
on
pour
a
vous
les
remercier.
Questions.
Il est temps. C'est pour vous remercier.
Oui.
Et encore, c'est pas suffisant à mon goût. Non, mais je voulais vous demander vous nous avez inspiré, beaucoup d'entre nous. Je me demandais qui vous avez inspiré, vous, comme artiste ou comme illustrateur. Peut-être personne. Peut-être êtes-vous la source.
C'est toujours les bonnes questions. C'est toujours la bonne question ici, tu vois. Peut-être je peux, tout à l'heure, je fais tout de suite maintenant une petite bêtise, mais je suis assez vieux. Comme j'ai déjà dit, ma mère, elle a acheté les tableaux de Picasso, tu vois. Et on a la plus grande dans notre maison pour 3 ans. Et j'étais fasciné par ce truc-là. Et grâce à ça, j'étais commencé à être très pris par le boulot de Picasso et il a fait toujours les belles dessins de les filles, mais avec une ligne simple comme ça. Et j'étais fasciné par ça. Et dans mon école, ils ont 2 petits dessins de Picasso dans la grande école, faits avec les crayons. Et moi, je me dis, mais ça, c'est rien. Ça, c'est juste une petite connerie. Il fait blum, 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 blum. Et chaque soir parce que ils ont me donné la clé pour la chambre pour de l'art. Je suis là. J'ai connu plus que le maître qui donne les études pour l'art. C'était moi qui ai corrigé la perspective de le monsieur, tu vois. Donc j'ai la clé pour le. Et j'ai l'habitude de dormir toute la journée. J'enlève le soir et j'enlève des fois les petits dessins de Picasso et j'ai fait des copies en crayon, tu vois. Et je suis patient si peut-être un soir je suis trop fatigué et j'ai remplacé la copie, tu vois. Et depuis cette époque-là, vous avez les boutiques, vous avez 3 balles en or, vous pouvez déposer quelque chose et ils donnent les sous. Et j'ai un très bon petit marché, tu vois. Ils sont pas intelligents, les gens là-bas, tu vois. C'est une gosse de 16 ans qui vient, tu vois, avec le costume d'une école, avec une Picasso. Et chaque fois, le monsieur, il dit, bon, ça c'est quoi? Oh, c'est une petite chose que j'ai trouvée dans la grenouille. OK, ça coûte 4 livres. Et après, je suis parti, tu vois. On peut vivre sur ça. Mais bien sûr, voilà, un jour, j'arrive avec une grande design de Picasso. Ça c'est quoi? Oh, c'est une petite chose. Ne quittez pas. Et j'ai écouté le téléphone comme ça et j'ai foutu le camp. Et après, c'est fini. Mais ça, c'est mon meilleur influence. Et je crois que c'est grâce à lui que j'ai fait les dessins pour le Joy of Sex. Parce que j'ai travaillé toute la nuit de suivre la silhouette, tu vois, de suivre. Parce que Picasso, il a une ligne. Et je suis très pris par Picasso, même encore. Voilà. Merci pour la question.
Merci Hubert, oui, le Picasso, les locomotives. Alors on n'a pas parlé de Joy of Sex, effectivement. Puis là, il y a dans l'exposition un petit enfer de fosse, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Oui, oui. Voilà. Nous avons notre petite cabine rouge là-bas. Ils ont peur que personne ne doit voir les. Tout comme m'étonne.
Le rideau même, est transparent
même,
quand même.
Même partout. Sur la télévision, pour les gosses. Vous pouvez avoir les scènes de violence incroyables, tu vois. 6 heures de soir, c'est quelqu'un qui a la tête coupée comme ça. On a du sang partout. Mais le moment qu'on a un nana qui sort les seins, oh, désastre, tu vois, tout le monde sur le téléphone comme ça. Et ça, c'est bizarre, à mon avis. Voilà.
Bon, un peu moins en France, peut-être, quand même. Voilà. Ouais, bon. Alors, d'autres questions encore. Il nous reste encore 5 minutes pour des questions sur Chris. Moi, j'en ai une, bien sûr, mais une jeune dame ici. Levez-vous, comme ça, on vous voit bien.
Oui.
Merci.
Alors, oui, donc hier, à la présentation du film sur H.R. Giger, vous avez dit que vous aviez, vous aussi, un train dans votre jardin. Alors, on a vu un train, effectivement, dans le jardin de H.R. Giger. À quoi ressemble le vôtre? Et est-ce qu'on aura un jour l'occasion de le voir dans un documentaire, nous aussi?
Un documentaire.
Je crois que sur la chaîne YouTube de Chris Foss, on voit Chris Foss sur son train.
Vous voyez, vous, tout le monde me donnait les très bonnes questions. Merci pour la question. Parce que j'ai saisi que Giger, il a un petit chemin de fer. Heureusement, c'est une maquette, vous voyez. Les rails sont juste comme ça, tu vois. Et chez moi, c'est un vrai train. La voie, c'est 1 mètre entre les deux. Et si vous, tout à l'heure, je peux vous donner ma site, parce que ma fille, elle a fait une vidéo avec moi en train de conduire la locomotive. Parce que moi, j'ai les vraies locomotives. Chez Giger, je suis très content. C'est juste une maquette, tu vois. Les rails, ils sont juste comme ça, tu vois. Il fait des petites conneries comme ça. Mais chez moi, c'est une vraie locomotive. C'est la première, ça coûte 6 tonnes et la deuxième, ça coûte 10 tonnes. Voilà.
Il a un rail là ici.
Ah voilà, et il a montré ça c'est les city qui roulent sur les rails et voilà. Mais c'est une très bonne question, merci beaucoup, tu vois, oui. Et tout à l'heure je peux vous donner le truc et vous pouvez regarder, on a une vidéo sur ce truc là parce que c'est une train construit pour une raison, parce que pour moi c'est pas la peine d'avoir dans le jardin de Giger, il a beaucoup de petites statues, les trucs comme ça. Moi, il faut que tout est pratique. Et chez moi, j'ai un chemin de fer parce que j'ai un jardin très long et j'ai commencé de travailler avec une sculpture. Et j'ai fait une sculpture. Et je veux faire encore les sculptures. Et donc, on a besoin de le chemin de fer pour apporter les rochers, le ciment, des trucs comme ça. Et moi, je peux apporter 100 tonnes de matériel. Voilà. Mais merci pour la question. Voilà.
Bien, Chris, merci. Merci infiniment. On a beaucoup parlé de rails. Hier, on parlait des utopiales, des locomotives, des wagons. Chris, tu es une de nos locomotives. Tu viens et tu entraînes derrière toi tous tes enfants qui, à la fois, s'appuient sur ton travail et le réinventent, y ajoutent leur subjectivité. Merci aussi à Gilles d'avoir permis l'existence des deux expositions, parce que c'était essentiel.
Je veux dire merci à Gilles pour une belle exposition. Je suis très content avec la dispo des tableaux. Je veux dire merci beaucoup, Gilles.
Merci à
voilà,
toi.
Et puis un grand applaudissement, je pense, pour Chris Foss qui va encore nous accompagner pendant tout le festival. Merci beaucoup, Chris. Merci d'être là.
J'espère qu'on va le retrouver demain en début d'après-midi. Je vous donne rendez-vous pour donc une table ronde consacrée aux enfants de Foss avec Hubert Delartigue, Manchu, Denis Bajram, Nox, designer de Transformers, et le papa Chris Foss.
Grand papa.